Bonsoir. Deuxième jour des consultations du président de la République hier à Kinshasa, Félix Tshisekedi a reçu les membres des organisations de droits de l'homme. Georges Kapiamba de l'Association congolaise pour l'accès à la justice a demandé au chef de l'État de requalifier la majorité parlementaire pour permettre l'avènement de l'État de droit en RDC. Parlant au nom de la société civile, Christopher Ngoy a présenté au chef de l'État une pétition de 96 000 signatures pour lui demander de dissoudre l'Assemblée nationale. Que pensez-vous de ces propositions? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 4 novembre 2020. Participe au débat Christopher Ngoy, coordonnateur général de la société civile de la RDC. Monsieur Ngoy, bonsoir.
Bonsoir.
Thierry Mosenepo, président de la Ligue des jeunes de la Convention des Congolais Unis, CCU en sigle, parti politique, membre du Front commun pour le Congo FCC. Thierry Mosenepo, bonsoir. Et le professeur Jean-Jeff Moudimbi, professeur à la faculté de sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi. Professeur Moudimbi, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Vous êtes très nombreux à nous envoyer vos réactions, vous, auditeurs des Radio Okapi. C'est le cas de Jérémy Kombi. On se réveille un matin pour dissoudre sans suivre la procédure ni respecter les textes. Que ces gens n'induisent pas les chefs de l'État en erreur, ils doivent l'aider à prendre des bonnes décisions pour l'intérêt général de la population. Aruna Canardo, depuis Mambasa en Ituri, l'idée de requalifier la majorité parlementaire reste la meilleure car il est extrêmement difficile d'évoluer dans une coalition où vos partenaires sont aussi vos opposants. Dissoudre le Parlement, c'est bien, mais organiser de nouvelles élections législatives sera encore une autre charge sur une économie déjà fragile. Merci de nous suivre à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, sur la 103.0. Et pour vous qui êtes à l'étranger, rejoignez-nous sur www.radiookapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Les défenseurs des droits de l'homme recommandent au président de la République de requalifier la majorité FCC-CACH en vue d'avoir une nouvelle majorité soucieuse du bien-être social et d'un véritable état des droits au cœur de l'Afrique. Ils lui ont remis un cahier des charges dans lequel sont contenues 8 recommandations. C'était au cours de la consultation des délégués des organisations de droits de l'homme, notamment l'Association congolaise pour l'accès à la justice à CACH en sigle, la Voix des 100 voix pour les droits de l'homme, VSV, la société civile de la RDC, ce mardi au Palais de la Nation. À l'issue de leur audience, le président de la CAJ, Georges Kapiamba, a fait le compte-rendu au micro de Jeff Ngoy. On l'écoute.
Nous avons proposé au président de la République de pouvoir consulter toutes les forces politiques et sociales, y compris les forces politiques des FCC, ainsi que des autres forces politiques des autres partis qui ne font pas partie aujourd'hui de la coalition, en vue d'écouter les uns et les autres, mais surtout dans l'objectif de pouvoir déboucher sur la requalification de la majorité, parce que nous sommes aujourd'hui certains qu'avec cette majorité, il ne sera pas possible de permettre à la République démocratique du Congo et son peuple de réaliser le projet de société, à savoir réaliser un état de droit démocratique tel que voulu dans notre Constitution.
Le malaise et la souffrance qui frappent la vie politique frappent également la population tout entière. Ce sont les propos de Christopher Ngoy, coordonnateur de la société civile de la RDC, au sortir de l'audience avec le président de la République, Félix Tshisekedi, hier mardi dans la soirée. Accompagné de la nouvelle société civile congolaise et du cadre des concertations de la société civile, les invités du chef de l'État lui ont remis une copie d'une pétition des plus de 96 000 signatures des populations qui exigent la dissolution de l'Assemblée nationale. Selon Christopher Ngoy, le président de la République a sollicité une appréciation sur la création de l'Union sacrée de la nation et comment sortir du malaise qui frappe la vie sociale et politique. Nous lui avons demandé de reconfigurer la majorité parlementaire, a-t-il confié au micro de Jeff Ngoy. On l'écoute.
Notre avis est que le malaise est vécu par toute la population. Pourquoi ? Parce que au perchoir où il se trouve, s'il y a un malaise, Ce sont les leviers qui activent tous les segments de la société qui sont en souffrance à ce moment-là. Et cette souffrance se répercute sur le social, non seulement le politique. Et aujourd'hui, nous avons exprimé au président que la population souveraine primaire ne se sent plus représentée par ses mandataires qui sont dans les institutions et qu'il faut penser très sérieusement à pouvoir restructurer ou reconfigurer l'Assemblée nationale. Nous lui avons remis la pétition de la société civile qui a aujourd'hui enregistré plus de 96 000 signatures et nous avons amené un échantillon que nous lui avons déposé. Et le reste, on a convenu qu'on viendrait le déposer solennellement.
Christopher Ngoy, je rappelle que vous êtes coordonnateur général de la société civile de la RDC. Vous demandez au chef de l'État de reconfigurer la majorité parlementaire. Pour quelles raisons?
Bon, écoutez, madame, ce n'est pas Christopher Ngoy, le coordonnateur, qui demande. C'est une représentation du peuple congolais qui s'est exprimée à travers cette pétition. Et c'est depuis plus de 4 mois qu'elle est en circulation et a enregistré un nombre important de signatures.
Qui reste quand même minoritaire par rapport à la population congolaise.
Oui, c'est juste un échantillon. Et cet échantillon aurait la souffrance. Les Congolais aujourd'hui, à travers tous les segments de la société, réfléchissent et se demandent pourquoi doivent-ils souffrir alors que il y a l'État qui est censé résoudre tous leurs problèmes en tant que pouvoir. Et puis, ils se demandent pourquoi aujourd'hui au sommet de l'État il y a une dissonance. Et à travers toutes ces réflexions, ils ont compris que, il n'y a pas la structure qui peut transmettre leurs avis ainsi que leurs aspirations au niveau du sommet de l'État. Et c'est là l'idée de la pétition qui tire sa raison sur au pied de l'article 27 de notre constitution. Et les Congolais estiment que aujourd'hui ils ne sont pas représentés. Et chaque fois que les parlementaires sont censés aller en vacances parlementaires, ils ne les voient pas, ils ne sont pas visibles. Et mais chaque jour ils entendent à travers les antennes que voilà, ils sont en train de réclamer ceci, cela, mais sur le terrain, on ne les voit pas. Donc, il y a cet engouement-là à pouvoir signer la pétition et à penser que, pour l'instant, ils ne sont plus représentés dans les institutions et que au moment où le Parlement, avec les députés qui sont les mandataires de cette population, sont censés penser aux problèmes qui taraudent la vie actuellement, et malheureusement, ils pensent à autre chose. Et c'est excédé qu'ils sont parvenus à adhérer à l'idée de la pétition que la société civile dans son ensemble a répercutée.
Alors, ce groupe de Congolais qui a signé la pétition, j'imagine que vous êtes parmi ces Congolais qui ont signé cette pétition qui demande au chef de l'État de dissoudre l'Assemblée nationale. Ne pensez-vous pas que ça serait résoudre une crise par une autre?
Non. Moi, je crois que, c'est une aspiration profonde. Aujourd'hui, la crise n'est pas à démontrer. Le président lui-même, dans son adresse du 23 du mois dernier, a dit, parce que lui, il est mieux placé pour vous dire qu'il y a crise. Et lui-même a montré qu'il y a un malaise. Et ce malaise, lui est en train de consulter la population souveraine primaire pour savoir, avoir une idée de ce que la population pense. Et nous avions déjà parlé vers nous cette pétition qui est signée par les Congolais, et dont l'exposé des motifs étale clairement ce qu'il y a comme difficulté, tout ce que la population épinglait comme différentes crises et qui sont cristallisées maintenant au sommet de l'État et qui font que le président a décidé de sortir vraisemblablement de cette coalition qui mine tout le reste. Et dire que les conditions ne sont pas réunies, nous pensons que les conditions sont réunies au regard des articles 148, hein, et qui indique qu'il y a crise aujourd'hui, crise persistante
mais,
au niveau de
l'exécutif. Mais il n'y a pas de crise persistante entre l'Assemblée nationale et le gouvernement pour qu'on arrive à dissoudre la chambre basse du Parlement.
Non, madame, nous devons avoir une vision d'ensemble des articles de la Constitution qui sont liés entre eux. Il y a l'article 69 dit que le président convoque et préside le Conseil des ministres. C'est-à-dire le chef du gouvernement, bien sûr le Premier ministre, il préside, il ne peut présider que par procuration du président de la République. C'est-à-dire le président de la République a une incidence directe dans l'exécutif. Et lorsque...
Mais c'est le Premier ministre qui reste quand même le chef du gouvernement.
Écoutez, il reste le chef du gouvernement, mais il n'est pas lui qui convoque le Conseil des ministres, il le fait par procuration. Et lorsque c'est lui qui les convoque et qui les préside, c'est-à-dire il s'agit de l'exécutif, madame, lorsque celui-là entre en conflit avec le Parlement, et c'est-à-dire il y a crise entre l'exécutif et le législatif, ça c'est clair. Et plus grave encore que la crise, c'est lorsque lui-là, dont nous parlons, le président de la République, qui est en même temps une institution. Et cette institution que certains membres de l'Assemblée nationale ne respectent pas. Et la crise est plus que grave. Faut pas se voiler la face. Lorsque on atteint le point culminant où le président lui-même arrive à s'estimer, à s'adresser à la nation pour dire qu'il y a crise. Mais pourquoi devions-nous persister à considérer qu'il n'y a pas crise? Alors, s'il y a crise, pourquoi devions-nous nous voiler la face au lieu de parer au plus pressé pour chercher des solutions qui peuvent, avant qu'il ne soit tard, mais moi je crois que ça serait une attitude irresponsable.
Par quel mécanisme le chef de l'État pourrait réqualifier la majorité parlementaire?
Bon, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, ayant constaté qu'il y a une crise persistante, qu'il implique même lui-même, alors qu'il est institution qui, dans le concept de la conception de législateur, donc l'institution présidente de la République devait être épargnée de cette crise. Mais aujourd'hui, cette crise s'est propagée jusqu'à son niveau et la population a constaté.
Oui, mais par quel mécanisme vous lui demandez de requalifier la majorité parlementaire? Comment il va s'y prendre concrètement?
Le mécanisme est simple. Nous avons parlé de la dissolution. Il y a des mécanismes constitutionnels qui prévoient la dissolution et nous estimons que les conditions sont garanties. Et il faut reconfigurer ou réqualifier. Nous pensons qu'il y a une autre voie qui est ouverte, c'est la consultation. Ces députés qui sont à l'Assemblée nationale sont des représentants du peuple. Et ils sont appelés aujourd'hui à choisir entre servir le peuple qui les a élus, qu'ils sont censés représenter, entre servir un autre maître. Et si ces députés résolvent qu'ils doivent servir le souverain primaire, alors à ce moment-là, ils vont se mettre en ordre avec la volonté de ce souverain primaire et servir et entrer dans une nouvelle configuration qui va déterminer la majorité et dont le président pourrait se servir sans toutefois dissoudre pour organiser le gouvernement et tout le reste. Et ça serait une voie. Là, c'est à travers la réqualification. Hein, ça, c'est à travers la réqualification. Mais si il n'arrive pas, et là, nous aimerions encore souligner que cette option-là va encore impacter sur la manière dont le gouvernement pourra fonctionner parce qu'il y aura beaucoup de caprices. Et il y a des gens qui vont, bien sûr, qui peuvent changer de camp, mais ils ne vont pas s'empêcher d'agir, d'exposer leur espièglerie.
Christopher Ngoï, dissoudre l'Assemblée nationale implique l'organisation des nouvelles élections, mais avec quel CENI va-t-on organiser ces élections? Et puis, est-ce que le gouvernement a les moyens conséquents pour l'organisation des élections dans les 60 jours?
Oui, madame, moi je crois que le problème de la CENI ne se pose pas. Nous voulons en créer inutilement. Aujourd'hui, à supposer qu'il y ait dans une assemblée provinciale quelque part l'organisation d'un vote ou d'un vote de nouveau gouverneur, c'est cette CENI-là qui est encore légale, qui va s'atteler à cette tâche, qui va organiser. Aujourd'hui, si nous sommes surpris par cette réalité, c'est qu'il faudrait dissoudre, c'est cette CENI-là qui va organiser ces élections-là. Et Il suffirait tout simplement d'entreprendre des mécanismes de contrôle pour pallier aux faiblesses que nous avons notées et que nous avons toujours dénoncées et assurer la transparence pour tout le monde. Et cela est faisable pour ce qui est des moyens. Nous pensons que ce pays a suffisamment de moyens. Encore que à ce jour, on ne connaît pas ce que nous coûtent exactement les élections parce qu'il n'y a jamais eu un audit indépendant et externe sur la CENI pour savoir qu'est-ce qui est alloué réellement aux opérations électorales. Et nous pensons que le pays est suffisamment nanti, l'argent est partout, et nous avons, je prends un exemple, 150 millions de dollars américains prêtés par FPI à différentes personnalités qui tardent à être remboursés. En dehors de ça, chaque jour qui passe, il y a des milliers d'argent qu'on constate et sont en train de passer des caisses de l'État vers des caisses privées. Et la question est de savoir, est-ce que l'État congolais est pauvre? S'il est pauvre, hier, nous avons dit au chef de l'État que la population est prête à se cotiser. Si chaque Congolais cotise $1, donc on aura suffisamment d'argent pour organiser les élections.
Christopher Ngoy, au cas où le gouvernement organisait les élections dans les 2 mois et que le FCC conservait sa majorité, qu'est-ce qu'on fait?
Oui, il est prévu que si on tombe dans ce cas de figure, ça s'est passé ailleurs et on est revenu à la charge. Et là, à ce moment-là, on passerait à ce qu'on appelle la cohabitation.
Thierry Monsenepo, président de la Ligue des Jeunes de la Convention des Congolais Unis, CCU en sigle, parti politique, membre du Front commun pour le Congo, FCC. Thierry Monsenepo, hier, le chef de l'État a reçu les membres des organisations de droits de l'homme et de la société civile. Ces organisations demandent au chef de l'État de réqualifier la majorité parlementaire pour permettre l'avènement de l'état de droit en RDC. La société civile démontre carrément la dissolution de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous pensez de ces propositions?
Merci, madame. D'abord, il faut dire une chose, c'est que la configuration ou la création d'un état de droit en République démocratique du Congo est un processus. Et ce processus passe inexorablement par l'organisation des élections crédibles, par l'installation des institutions et aussi des cours, des tribunaux et des appareils qui permettent à l'État de fonctionner. Et cela a été effectif depuis 2006 par la première élection démocratique qui a été organisée par Joseph Kabila. Deuxièmement, nous avons poursuivi la société civile qui est passée hier auprès du chef de l'État lors de ses consultations, mais nous avons été un peu piqués par les réactions de M. Kapiamba et de M. Christopher Ngoy. Premièrement, lorsque l'on parle de la réqualification de la majorité parlementaire, madame, cette réqualification ne peut se faire que par les élections. Et en ce qui concerne la question des élections, je vais revenir tout à l'heure pour vous expliquer que c'est difficile de le faire aujourd'hui. Mais le faire dans le sens où, M. Christopher Ngoy vient de le dire, que les députés qui sont là sont élus par le peuple, c'est vrai, mais ils appartiennent à des familles politiques. Lorsqu'ils sont devenus députés, ils ont signé un cahier de charges selon le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale qui les classe dans la majorité où ils sont aujourd'hui. Donc, user de la manipulation pour essayer de changer une majorité qui est venue des urnes par de la manipulation, permettez-moi ce pléonasme, cela est contre nature et contre l'état de droit. Parlons maintenant de la question des élections. Il ne faut pas seulement parler de la CENI qui est l'organe technique qui organise les élections. L'objet principal, pour ne pas dire l'élément principal, c'est le fichier électoral. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, nous n'avons pas un état civil qui existe dans notre pays. Donc il faut recourir au fichier électoral. Et le fichier électoral actuel qui a servi aux élections de 2018 est à ce jour corrompu par le fait que nous avons des Congolais qui, à l'époque, avaient 16 ans, qui aujourd'hui ont 18 ans, donc ont droit de voter. Nous avons des Congolais qui sont décédés. Nous avons des Congolais qui, d'autres sont allés dans l'armée et d'autres sont revenus à la vie civile. Il faut donc reconfigurer ce fichier. Nous avons nous-mêmes ici constaté que la CENI de Nanga, et même avant la CENI de Nanga, a eu plus de 9 mois pour l'élaboration d'un fichier qui est fiabilisé. Donc, nous quittons déjà les 60 jours constitutionnels dont il est question. Mais aussi, lorsque l'on pousse le président à dire qu'il faille dissoudre l'Assemblée nationale. Mais il faut se référer à la loi. Il ne faut pas faire des interprétations selon ce que l'on veut ou selon ce que l'on pense. Cette constitution est écrite en langue facile. Il est dit que la dissolution n'est possible qu'en cas de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée. Pas l'exécutif, pas l'institution président de la République. Il ne faudrait pas qu'on se perde dans des sinécures. La loi est claire, c'est une crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale.
Christopher Goy estime que cette crise existe bel et bien.
Non, mais quelle crise existe? Nous avons tous suivi le président de la République. Le président de la République parle des problèmes liés à des cacophonies de vues en ce qui concerne les problèmes qui touchent les Congolais. Il n'est pas interdit au président de la République en tant que père de la nation de consulter ses concitoyens pour des problèmes qui sont liés à la gestion du pays, aux questions liées à la sécurité, ainsi de suite. Mais le président n'a pas dit qu'il y avait crise entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Cette crise persistante dont on parle est où? C'est ça le problème. Il ne faudrait pas que nous puissions ici faire dire au président ce qu'il n'y a pas eu à dire. Que M. Christopher Ngoï ait pu réunir 90 000 signatures pour une pétition, il n'y a pas de problème, il en faut 100 000, mais au-delà de cela, se permettre de dire que les députés qui sont là ne représentent plus le peuple parce qu'on ne les voit pas dans les vacances parlementaires. C'est le bureau de l'Assemblée nationale qui constate qu'un député national n'a pas ramené ses rapports de vacances parlementaires.
La base constate aussi que les députés... La base où les électeurs aussi ont constaté, Thierry Monsenepo.
Les 500 députés ne reviennent pas en vacances. Ça n'a pas de sens. Donc aujourd'hui, madame, je pense qu'il est important...
Christopher Ngoï a rapporté les propos des électeurs.
Mais de quels électeurs il s'agit, madame? Ces électeurs-là sont en contact permanent avec nous tous. Nous aussi, nous parlons à ces électeurs. Ce ne sont pas des Martiens, c'est des Congolais. Nous les rencontrons. Ils n'expriment pas ce que dit M. Christopher Ngoï. Aujourd'hui, il est évident, certes, qu'il y a des problèmes de vision, comme l'a dit le président de la République, qu'il faille, c'est vrai, que les Congolais se mettent ensemble. Ça a toujours été le vœu du Front commun pour le Congo, du président honoraire Joseph Kabila. Ça a été le vœu de tout citoyen qui est épris de l'amour de ce pays. Mais de là, commencer à stigmatiser le RCC, en faire le souffre-douleur de tout le monde pour dire que ça ne va pas à cause de cette majorité. C'est cynique et c'est mal connaître le problème que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays qui, ouvertement, est un problème qui concerne la crise que connaît le monde entier suite au Covid, un problème qui concerne une crise de sécurité récurrente dans le Grand Nord et dans l'Est de notre pays.
Donc, si je vous comprends bien, Thierry Monsenepo, vous estimez qu'il n'y a pas crise en RDC aujourd'hui, mais pourquoi, selon vous, le chef de l'État, si crise il n'y a pas, pourquoi il organise ces consultations?
Madame, il faut que l'on rentre dans le terme strict des lois de notre pays. La crise dont il est question pour qu'on arrive à la dissolution de l'Assemblée est une crise persistante qui existerait entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Nous sommes tous d'accord que cette crise n'existe pas. Maintenant, lorsque le président de la République parle d'une difficulté de vision entre partenaires politiques, cela peut arriver. Cela peut arriver aussi que dans le but d'élargir cette vision, il faille consulter X ou Y qui ne se retrouverait pas dans cet accord RCC-CACH. Cela n'est pas interdit au président de la République qui le fait au regard de l'article 69 de la Constitution qui fait de lui le garant du bon fonctionnement des institutions.
Et mais cette crise ne lui permet pas de bien mettre en place, de mettre en œuvre son programme pour la RDC. Ça freine le développement, madame, du pays.
Le programme qui a permis à ce que le gouvernement Iloukamba puisse aujourd'hui être validé par l'Assemblée nationale, qui a fait de lui un gouvernement qui aujourd'hui travaille pour la vie démocratique du Congo, est un programme qui a été établi sur base des visions du président de la République. Aujourd'hui, on parle de la gratuité de l'enseignement. Ce n'est pas le président de la République qui exécute un programme, c'est le gouvernement. On parle des routes qui sont construites. On parle d'un budget pour 2021 qui a été déposé à l'Assemblée nationale de l'auteur d'à peu près de 6 milliards de dollars. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est des actions qui sont dans la vision du chef de l'État matérialisée par le programme du gouvernement. Donc, si le président de la République, en tant que père de la nation, juge qu'il y a des éléments qui demandent à ce qu'il puisse parler avec d'autres Congolais pour nécessiter une plus grande adhésion sur la vision qu'il a, il n'y a pas de problème. Mais je ne veux pas que l'on sorte de ce cadre et que l'on généralise dans le sens de dire qu'il faille aujourd'hui dissoudre l'Assemblée. Le président de la République n'a pas parlé de ça. Il ne faudrait pas que l'on puisse lui attribuer des mots qui ne sont pas à lui.
Professeur Jeff Modimbi, professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi. Professeur, comment vous analysez ces propositions faites par la société civile et les organisations des défenses de droits de l'homme?
Merci beaucoup, madame, pour la question que vous venez d'imposer. À mon niveau, je dirais que entre deux mots, il faut choisir le moindre. Je ne suis pas d'accord avec la dissolution de l'Assemblée ou du Parlement, parce que cette dissolution peut entraîner de conséquences très fâcheuses. Par ailleurs, il faudrait reconnaître que la dissolution du Parlement est bien encadrée par la Constitution. Il dispose que d'abord, il faudrait qu'il y ait une crise préexistante entre l'Assemblée et le gouvernement. Et ici, je voudrais éclairer bien les lanternes. Quand on parle du gouvernement, la Constitution est très claire. Elle précise que le gouvernement est constitué, un, du Premier ministre et des ministres. Donc, dans le gouvernement, il n'y a pas le président de la République. Le président de la République se trouve dans l'exécutif. Or, à l'heure qu'il est, nous avons un Premier ministre, chef du gouvernement, qui est issu de la composante qui a la majorité relative au niveau de l'Assemblée, même si cette composante n'a pas réussi à réaliser la majorité absolue. Alors, si nous regardons très bien entre l'Assemblée nationale et le gouvernement, dans lequel, j'insiste, le président de la République est absent, est-ce qu'il y a une crise? À ce niveau, je dis non, il n'y a pas de crise. Et puis, des deux, pour dissoudre le Parlement ou l'Assemblée nationale, il est dit ceci, que le président de la République doit aussi consulter les présidents des chambres. Or, les présidents des chambres appartiennent à la composante FCC. Mais ici, je me réserve de faire un commentaire de la Constitution pour indiquer si la consultation des présidents des chambres est un élément substantiel ou non substantiel. Je pense ici que les cours et tribunaux sont disposés à éclairer les lanternes. Si réellement la consultation des présidents des chambres revêt un caractère substantiel, à ce niveau, je pense que les deux présidents faisant partie du FCC, il sera difficile au président de la République de dissoudre le Parlement. Mais si cette consultation-là n'est pas un élément substantiel, rien à faire, le président de la République peut dissoudre. Mais en dissolvant le Parlement, il y a des problèmes sérieux qui vont se poser, notamment comment réunir les moyens matériels, parce que nous ne devons pas parler avec beaucoup plus de simplicité, ce n'est pas un travail de demoiselle. Il y a aussi les moyens financiers qu'il faut réunir. Il faudrait statuer sur la CENI, sur les animateurs de cet organe, de sorte que les élections qui vont être organisées ne soient plus encore décriées comme nous sommes en train de les connaître. Alors, c'est ainsi que entre deux mots, comme je l'ai dit, il faut choisir le moindre. Mais moi, je pense que le mieux
le moindre serait quoi, selon vous, professeur?
Oui, c'est peut-être la reconstitution d'une nouvelle majorité. Alors, comment est-ce que cela peut se faire? Alors, moi, je dis ceci, que les lois du pays interdisent l'émigration entre partis politiques. C'est-à-dire qu'un député qui a été élu sous l'étiquette, je prends au hasard, du parti CCU, si ce député-là quitte le CCU pour aller, par exemple, à l'UNC, immédiatement le député perd son mandat. Mais la loi n'interdit pas l'émigration entre groupements politiques. C'est-à-dire que quelqu'un peut être du FCC et quitter le FCC pour rejoindre le CACH. Et là, ça ne pose pas de problème parce que la loi n'a pas érigé cela en des effets délictueux. Alors, c'est ainsi que, par euphémisme, pour ne pas parler du débauchage, il y a des partis politiques qui peuvent observer la migration politique en quittant, par exemple, le FCC pour s'allier au CACH, et de la sorte les choses ou encore la majorité ne sera plus encore la même.
Mais professeur, lorsqu'un député
quitte...
Et à partir
de là, le président de la République, je m'excuse, peut maintenant ici nommer un informateur qui va identifier la nouvelle majorité. Alors, à partir du moment où la nouvelle majorité est identifiée, et comme la Constitution le dit, dans cette majorité-là, le président de la République peut maintenant désigner un nouveau premier ministre. Je pense que ça, c'est le moindre mal et c'est faisable.
Professeur, le fait qu'un député quitte sa formation politique ou regroupement politique pour adhérer à un autre regroupement, une autre formation, j'imagine qu'il quitte automatiquement aussi son parti politique.
Nous devons distinguer les migrations politiques entre partis politiques et migrations politiques entre regroupements politiques. Ce qui est interdit, ce sont les migrations entre partis politiques. Mais l'émigration entre groupements politiques, cela n'est pas interdit. La loi ne dit rien à ce sujet. C'est ainsi que on peut parler, peut-être pour utiliser un peu l'expression chère au commun du mortel, le débauchage. Donc certaines personnes peuvent quitter d'un regroupement A vers un regroupement B. Mais ce qui est interdit, c'est de quitter son parti politique parce qu'on a été élu sous la liste d'un parti politique. Dès qu'on quitte ce parti politique pour adhérer à un autre parti politique, immédiatement, là, on perd son mandat.
Merci, professeur. On vous garde encore dans cette émission. On va prendre les auditeurs qui ne cessent d'appeler. On va commencer par cet auditeur qui nous appelle depuis Kinshasa. Pour vous, Christopher Ngoy.
Charles Kivata, je suis à Kinshasa. Je voulais justement dire ceci. En politique, on ne peut pas dire à quelqu'un, par exemple, que je viendrai vous tuer dans une semaine, mais il va se préparer. Le fait que le président de la République avait parlé de l'union sacrée pour la nation qu'il devait former, et que l'FCC a senti, en quelque sorte, qu'il est en position de faiblesse, alors le président honoraire Kabila, il va tout faire pour protéger ses brebis. De telle sorte que le président de la République, après les consultations, il n'aura pas la majorité voulue pour qu'il puisse former, n'est-ce pas, l'union sacrée en question. Donc à partir de ce moment-là, je suis en train de voir que le président de la République, lorsqu'il va revenir à la nation, à la population, comme il a promis pour donner le message, il dira tout simplement que j'avais eu des conseils de la communauté internationale. J'ai eu le conseil de la SADC, j'ai eu le conseil de l'Union africaine, et j'ai eu aussi le conseil de certains partenaires et de certaines organisations que j'ai consultées. Et qu'ils m'ont conseillé à ce qu'il faut vous entendre avec votre allié pour éviter des problèmes dans le pays.
Christopher Ngoy.
Merci beaucoup, madame. Je commence par réaliser que le professeur dit une chose et son contraire. Au départ, les députés sont élus sur les listes des regroupements politiques et des partis. Alors, lorsqu'il parle de la transhumance, donc des migrations, là, je n'arrive pas à bien le suivre. Mais je crois que il reconnaît, M. Moussenepo reconnaît que aujourd'hui il y a crise parce que le président, d'abord, c'est bien lui qui constate cette crise. Et nous sommes dans un cas de figure, une crise sui generis, parce que unique en son genre. Vous trouvez que notre exécutif aujourd'hui est pratiquement bicéphale. Vous avez un gouvernement, un chef du gouvernement, mais qui n'a pas la possibilité de convoquer le conseil des ministres, donc, et de les présider. Il le fait par procuration. Et lorsque celui qui devrait normalement les convoquer et les présider entre en conflit avec une autre institution, c'est pratiquement le gouvernement qui est concerné. Et moi, je crois qu'en tant que professeur, en tant qu'homme de science, on peut, devant une difficulté pareille, saisir là où il y a le problème et comprendre tout de suite qu'il y a une crise. Bon, par ailleurs, notre ami M. Lepo, il parle de fichier électoral. Mais le fichier, ça m'étonne qu'il puisse changer de langage aujourd'hui. En 2006, 2011, 2018, nous avons parlé de ce fichier-là. Il y a eu même des morts pour ça. Et aujourd'hui, qu'il puisse remettre en cause ce fichier, nous disons que ce fichier est susceptible d'être aseptisé. On peut l'harmoniser en un temps record et arriver à organiser des élections.
Mais qu'est-ce que vous pensez de la réaction de cet auditeur qui nous a appelé, Charles de Kinshasa?
Oui, cet auditeur a raison dans sa formulation, dans sa pensée ou dans son constat. Mais vers la fin, il chute mal. Parce que nous pensons que
le président a constaté la crise, il en a parlé, et que, oui, les conseils, il les reçoit, et il est lui-même entreprend les consultations. Mais pourquoi doit-il penser que le président, en fin de compte, va dire, voilà, je décide de harmoniser avec, avec son allié. Mais cette alliance-là est contraire à l'esprit de l'article 5. Le Congolais est souverain. Et puis, nulle part dans la Constitution, il n'est fait mention d'une autorité morale qui contrôle, qui co-gère avec le président de la République élu.
Merci Christophe Angoy. Thierry Moussené, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de la Tchopo.
Depuis Isangi dans la Tchopo, je salue en passant toutes les propositions car elles sont bonnes et je félicite l'initiative de M. Christophe Angoy pour sa pétition afin de dissoudre l'Assemblée nationale. À mon avis, pour que le président de la République démocratique du Congo trouve sa majorité parlementaire, l'unique et le seul moyen est de dissoudre les bureaux de l'Assemblée nationale. Cela lui permettra de bien développer son pays avec son projet pour assurer la bonne gouvernance de la nation.
Brève réaction, Thierry Moussenepo.
Merci madame. Je pense que le professeur qui est avec nous dans ce débat a clairement établi la composition du gouvernement au regard de notre loi fondamentale. Le Premier ministre et les ministres et vice-ministres qui composent le gouvernement. Donc la crise dont on parle, qui doit nous conduire à une dissolution de l'Assemblée, doit passer par une crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée. Or, il n'y en a pas à ce jour. Donc une raison légale et légitime qui puisse conduire le président à une dissolution n'est pas existante à ce jour. Maintenant, en ce qui concerne la transhumance, madame, cette question a été clairement établie par le professeur. Mais c'est vrai qu'il y a des regroupements politiques qui sont aujourd'hui à l'Assemblée et qui ont aligné les députés. Mais ce que la loi interdit, c'est les transhumances et les migrations des formations politiques. Donc que vous soyez parti politique ou regroupement, du moment que vous êtes allé aux élections au nom d'un regroupement ou d'un parti politique, cette transhumance-là est interdite. Alors, depuis... si ce n'est que par la manipulation que M. Christophe Angoy va sûrement conseiller que ça puisse être établi ou fait aujourd'hui à l'Assemblée nationale, il n'y a pas d'autre moyen pour requalifier une quelconque majorité, surtout que dernièrement, plus de 300 élus députés, plus de 60 sénateurs se sont présentés devant l'autorité morale du FCC pour dire qu'ils sont avec lui. Maintenant, je reviens à ce que notre frère de la Tchopo vient de poser comme question. Je lui répète le fait que aujourd'hui la crise n'existe pas au regard de notre Constitution pour amener à une dissolution de l'Assemblée. Et il ne faut pas prendre cette question avec légèreté car il y a des préalables. Monsieur Christopher Ngoï dit qu'on peut le faire rapidement, ce ne sont que des dires. Retravailler un fichier électoral prend du temps parce qu'il faut réenrôler les nouveaux majeurs. Merci. Il faut élaguer les morts. Il faut requalifier les adresses de tous ceux qui se sont qui ont déménagé, ainsi de suite. C'est un travail qui au moins prendrait 9 mois. Or, la Constitution ne donne que 60 jours pour Merci. Qu'il y ait des nouvelles élections législatives lorsque l'on passe à la dissolution de l'Assemblée.
Merci.
Il pourra prendre ça à la légère.
Merci Thierry Moussenepo. Professeur, il y a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Mbujimayi.
Monsieur Noël Mpulumba, à partir de la ville de Mbujimayi, dans les Kasaï orientales. L'article 148 de la Constitution est très clair sur la dissolution de l'Assemblée nationale. Il faut qu'il y ait une crise persistante entre le gouvernement et le Parlement. Et cela après consultation du Premier ministre et le président des deux chambres, qui d'ailleurs sont tous du FCC. Admettons que le président de la République dissout l'Assemblée nationale. La CENI est dans l'obligation d'organiser les élections dans 60 jours, ce qui est impossible car le pays n'a pas assez de moyens vu la crise économique que nous traversons due à la COVID-19. Même si le gouvernement pouvait s'endetter auprès des partenaires ou avoir des moyens financiers pour organiser les élections dans 60 jours, après la dissolution, s'il arrivait que les FCC conservent toujours la majorité parlementaire, le chef de l'État acceptera-t-il de démissionner ou il continuera à travailler avec une majorité qui n'est pas acquise à sa cause?
Professeur Moudimbi.
Oui, merci beaucoup. Je voudrais saluer bien l'intervention du compatriote Mboujimaï parce qu'il m'a rejoint. Et c'est ici le lieu de demander à M. Christopher Ngoï de lire très bien la Constitution. Et si réellement nous aimons le président de la République, nous devons l'aider avec des conseils sages ou encore avec la vérité, alors rien que la vérité. Quand M. Christopher Ngoï soutient l'idée selon laquelle le président de la République, en président du Conseil des ministres, fait partie du gouvernement, mais c'est vraiment absurde. C'est absurde. On est professeur, on a de la science. Je ne fais que dire la vérité parce que la Constitution dit que le gouvernement est constitué du premier ministre, des ministres, des vice-ministres, etc. Le président de la République n'est pas dans le gouvernement. Alors, tout ce qu'il fait là ne relève que de sa propre interprétation. Vous savez, madame, je me suis réservé moi-même ici d'interpréter le sens qu'il convient de donner à la consultation du président de la République, des présidents de deux chambres avant la dissolution du Parlement. Il y a des institutions attitrées. Donc, je pense que, en toute humilité, nous devons aider le président de la République avec des bons conseils pour qu'il prenne des décisions adéquates. Mais moi, je continue à confirmer que la dissolution du Parlement risquerait de coûter très cher au pays. Mais le mieux à faire, c'est
ça
peut-être
sera votre conclusion,
l'émigration politique. Mais ce qui est évident, c'est que le camp aussi du FCC ne doit pas se laisser faire. Il doit aussi mettre des stratégies pour éviter qu'on arrive à ce débauchage. Mais je suis aussi convaincu qu'en politique, les alliances se font et se défendent selon les intérêts. Le camp qui offrira aux autres beaucoup de garanties aura aussi beaucoup de chances de faire quoi ? D'attirer un grand nombre d'adhérents chez lui.
Merci, professeur Jeff Mudimbi. Christopher Ngoï, en 30 secondes, votre conclusion.
Je suis désolé d'entendre parler de professeur de camp qui offrirait de plus de garanties. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a une opération de corruption à ciel ouvert, des promesses. Et vous voulez nous dire que le peuple est pris en otage par une conspiration et un cocktail de lois ou des dispositions de lois qui bloquent tout. Parce que à les entendre même là, c'est difficile d'opérer la transhumance aujourd'hui. Et il est impossible qu'on puisse dissoudre, selon eux. Alors que lorsqu'il parle même de...
Il faut conclure, Christopher Ngoï. Il faut conclure.
Je n'ai pas dit que le président est membre du gouvernement. Non. J'ai dit que l'exécutif est bicéphale. Donc, il est vérifié dans la Constitution à l'article 69. Et c'est le président qui convoque. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons ici, il n'y a pas de conseil des ministres. Il n'y a pas de conseil des ministres. Le président ne se rencontre pas avec la présidente de l'Assemblée nationale, encore moins celui du Sénat.
Alors, vous persistez que pour sortir de cette crise, il faut dissoudre l'Assemblée.
Nous signons, il y a crise, il faut dissoudre. Parce que l'ancien président de la République est en train de tout faire pour qu'il n'y ait pas cette
réqualification. Merci Christopher Ngoï. Thierry Moussené pour 30 secondes, aussi pour conclure.
Merci madame. Je pense que les lois de la République, lorsque ça ne vous plaît pas, il faut les changer. Il y a des mécanismes pour changer des lois, notamment la Constitution ou d'autres lois. Il ne faut pas les travestir. Pour que ça puisse être adapté à vous, c'est comme ça que naissent les dictatures et les dictateurs. Il faudrait donc que l'on évite de dire ce que la loi ne dit pas. Ce n'est pas puisqu'il n'y a pas conseil de ministres que c'est ça la crise persistante. La loi est claire, il n'y a dissolution qu'en cas de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. L'absence de conseil de ministres, l'absence d'une fusée en République démocratique du Congo, l'absence des martiens dans une commune ici, ne peuvent pas être des éléments qui peuvent conduire à une dissolution de l'Assemblée.
Merci Thierry Monsené pour Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté, Dona Madimba, Axel Goncho qui m'ont aidé à préparer cette émission. Paul Badianyama a été à la prise de son, présentation et coordination à Kéline Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiokapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.